Française, français, belge, belge, mon président, mon chien, indécrottable raclure du barreau de mes deux chaises, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Le seul fait que Cavana existe, mesdames et messieurs les jurés, est une insulte au bon goût français. Je connais personnellement, de par mes humbles activités littéraires, dont je ne dirai rien d'autre, pour ne pas faire de publicité aux éditions du Seuil, je connais, dis-je, dans les milieux huppés des belles lettres françaises, quelques journalistes trou du cul pompeux qui trou du cul pompisent dans mains hebdomadaires glacées et s'esbaudissent volontiers à la relecture de Rabelais alors qu'ils trouvent Cavana vulgaire. Le monde est ainsi fait d'étranges paradoxes. Je connais aussi des gens qui trouvaient Giscard nul et qui trouvent Mitterrand génial, par exemple. D'autres qui vomissent Jaruzelski, mais qui souperaient volontiers chez Pinochet. Alors que, à part la marque des Ray-Ban, je connais même un conseiller présidentiel qui a peur de la dictature de Pivot, mais qui ne craint pas de sauter sur les genoux de Fidel Castro. Mondocane. Mais je m'écarte du sujet, et c'est tant mieux parce que, autant vous l'avouer, mesdames et messieurs les jurés, même pour de rire, je serais incapable d'enfoncer Cavana, qui reste aujourd'hui l'inventeur de la seule nouvelle forme de presse en France depuis la fin de l'amitié franco-allemande en 1945, et l'un des derniers honnêtes hommes de ce siècle pourri. Croyez-moi, Cavana, seule la virulence de mon hétérosexualité m'a empêché à ce jour de vous demander en mariage. Charlie Hebdo est mort depuis un an. Déjà. Oh, autant suspend ton vol. Mon Dieu, comme la pilule, comme le stérilet, comme le temps passe. Comme le temps passe. C'est dur, hein. Il a horreur des calembours. Comme le temps passe et nous glisse entre les doigts. Oh, arrêtez le temps, repoussez à jamais l'heure inéluctable du tombeau. Mais non, hélas, la Camarde ricane et nous guette sans hâte, tandis que sournoisement, d'heure en heure, nous ne cessons de nous flétrir, de nous racornir, de nous friper, de nous tasser lentement, mais sûrement, jusqu'au stade ultime où les microbes infâmes nous jailliront des entrailles pour nous liquéfier les chairs et nous réduire à l'état d'engrais naturel. Qu'es-tu devenue, toi que j'aimais, qui fus pimpante et pétillante, bouche de fraise et nez coquin? Qu'est-ce que tu fous sous ton cyprès? Qu'es-tu devenue? Oh, je sais, tu es devenue azote 12%, acide phosphorique 17%, sel de phosphate 21%, âme 0. Arrêtez le temps, je connais malgré moi, à mon corps défendant, à mon cul défendu, je connais malgré moi dans mon voisinage d'une dinde para-artistique que je hais particulièrement de tout mon cœur. Une de ces attachées de fesses pour relations bibliques qui secouent leur incompétence en gesticulant vainement sur les plateaux de télévision et dans les cocktails littéraires où elles fiantent sans grâce leur sous-culture de salon. Un doigt d'Albert Cohen, deux doigts de Laura Ashley, un zeste de Bobby Lapointe, lequel d'ailleurs, avant d'être mode, mourut dans l'indifférence générale de la France entière, excepté le 14e arrondissement de Brassens et de Fallet. Mais je m'égare, et pas seulement de Montparnasse. Bref, je connais une connasse dont, au sujet de laquelle, je me demande soudain de quoi est-ce que je cause-t-on. Ah oui. Oui, c'est à propos du temps qui passe. Alors bon, cette remarquable imbécile cogna l'autre jour à mon nuisse. On peut cogner à mon nuisse. Je n'aime pas qu'on cogne sur mon nuisse, mais on peut cogner à mon nuisse. Et donc, elle cogna à mon nuisse dans le but de nous emprunter je ne sais plus quel appareil électronique, quand ma fille cadette, qui va sur ses 6 ans sans s'arrêter de courir après les Indiens, lui déboula dans l'entrejambe à la suite d'une fausse manœuvre de son vaisseau spatial conduit par Rox, Rookie ou Superwoman, va savoir. « Ah, ma chérie !» dit cette dame. « Ah, ma chérie !»« Ah, mon Dieu, qu'elle est mignonne, merde, quoi !»« Ah !» Mais dites-moi, on est une grande fille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi depuis la rentrée. Mais non, andouille, elle n'a pas grandi. Elle a vieilli. Elle est de plus en plus vieille, elle a déjà perdu ses premières dents. D'accord, elles vont repousser, mais après, elle va perdre ses deuxièmes dents. D'accord, elles vont repousser, mais après, c'est fini. Et après, les dents, c'est les cheveux. Quelle horreur. Le temps nous pousse. Le temps nous pousse sans répit depuis le berceau. Le temps nous pousse, le temps nous presse sans trêve vers le trou final. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, merci Cloaque. Oh, arrêtez le temps. Connaissez-vous cette légende africaine que racontent encore à la veillée les vieux pêcheurs du Nil de Barrel-Abiad? Elle raconte le temps qui passe et la mélancolie de toutes choses, et les vieux la psalmodient inlassablement à la veillée en ravaudant leurs filets pour que les jeunes piroguiers et cervelés apprennent que la vie n'est pas éternelle et que, comme le dit désespérément Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. C'était il y a longtemps, longtemps, avant que l'homme blanc ne vienne troubler le calme lourd des chauds plateaux du Sud, avec ses clairons d'orgueil et son attirail à défricher les consciences. Un soleil de plomb tombait ce jour-là, tombait droit sur le Nil blanc où les bêtes écrasées de chaleur venaient se tremper la tête jusqu'au garrot pour boire goulûment l'eau tiède et marécageuse. Au risque de se noyer, quelques oiseaux passereaux s'ébrouaient violemment dans la purée boueuse à la frange glauque du fleuve. Au loin, un petit de chien sauvage égaré dans les herbes grillées de soleil hurlait la gorge sèche, la plainte infinie des agonies brûlantes. Au beau milieu du fleuve, totalement irréfutable, deux énormes hippopotames ne laissaient paraître au regard que les masses immobiles de leur dos gris-jaune, au cuir craquelé de boues éparses et d'algues mortes. Seuls paisibles au milieu de toute cette faune abrutie de torpeur torride, les deux balours faisaient des bulles. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'hippopotame n'est pas un tas de lard essoufflé. L'hippopotame pense, l'hippopotame est intelligent. Et justement, tandis qu'un gros nuage porteur de pluies improbables venait ternir un instant l'éclat métallique de ce soleil d'enfer, l'un des deux mastodontes émergea soudain des eaux sombres, son incroyable trogne maflue de cheval bouffi. Ses immenses naseaux sans fond se mirent à frémir et à recracher des trompes d'eau dans un éternuement obscène et fracassant. Puis il se mit à bâiller. Et c'était un bâillement cérémonial, lent et majestueux, qui lui déchira la gueule en deux aux limites de l'éclatement, en même temps qu'étincelait l'ivoire blanc de sa bouche béante et que montait au nu son beuglement sauvage. Presque aussitôt, le second hippopotame, à son tour, sortit sa tête de l'eau en s'ébrouant frénétiquement. Puis les deux mastodontes se regardèrent longuement à travers leurs longs cils nacrés. Alors, après avoir humé prudemment de droite et de gauche l'air saturé de chaleur électrique, le premier hippopotame dit à l'autre: c'est marrant, j'arrive pas à me faire l'idée qu'on est déjà jeudi. Et oui, passe le temps et passent les semaines. Les hippopotames ont le spleen, Charlie Hebdo est mort, Cavana pointe au chômage, les Russes arrivent et j'ai rien à me mettre. Ça va mal. Donc Cavana est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.